France Culture, il est midi et demi. Bienvenue à tous. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. L'auteur de la tuerie d'hier à Las Vegas qui a fait 59 morts et 500 blessés est un Américain de 64 ans, comptable à la retraite, habitué des casinos. Fusillade revendiquée par le groupe État islamique, la piste écartée pour l'instant par Washington. Correspondance de Marco Voltaire, analyse d'Éric Biegala dans cette édition. La Catalogne en grève aujourd'hui contre les violences policières de dimanche. Le gouvernement régional s'apprête-t-il maintenant à proclamer l'indépendance? On retrouvera sur place Annabelle Grelier à Barcelone et Mathieu de Taillac à Madrid. La crise qui déchire le Cameroun anglophone vient de connaître son épisode le plus sanglant. Au moins 17 morts en marge d'une proclamation symbolique aussi d'indépendance de cette région. Analyse de Nabila Hamel. À Paris, 5 personnes interpellées par les services antiterroristes après la découverte vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi, de bonbonnes de gaz équipées d'un dispositif de mise à feu devant un immeuble du 16e arrondissement de Paris. Enquête d'Emmanuel Leclerc. Le procès du frère de Mohamed Merah devant la cour d'assises spéciale de Paris. Deuxième jour aujourd'hui avec le début de l'exposition de la personnalité du prévenu. Compte rendu d'audience avec Florence Thur. À l'instant, prix Nobel de physique attribué à 3 astrophysiciens américains pour leur contribution décisive à l'observation des ondes gravitationnelles détectées pour la première fois il y a maintenant 2 ans. L'invité de la séquence interview, ce sera Hugo Bernalicis, qui est député France Insoumise du Nord. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert.
Nous recevons la philosophe Elisabeth de Fontenay à l'occasion de la parution de En terrain miné aux éditions Stock. C'est aussi le parcours et l'engagement d'une intellectuelle qui se lie en creux de cet échange épistolaire avec l'essayiste Alain Finkielkraut. Elle est notre invitée donc à partir de 12h55.
Comment donc un mystérieux retraité équipé de plusieurs fusils d'assaut en est venu à mitrailler des milliers de spectateurs d'un concert en plein air à Las Vegas? Concert auquel assistaient tout de même 20 000 personnes. Et que penser aussi de cette revendication de l'État islamique qui a suivi quelques heures après? En tout cas, le bilan de la tuerie s'est encore alourdi pour atteindre 59 morts, plus de 500 blessés, dont beaucoup l'ont été d'ailleurs dans leur fuite. Perché dans un étage élevé d'un hôtel surplombant le concert, le tireur est un Américain blanc, donc de 64 ans. C'est un comptable à la retraite, habitué des casinos. Il s'était minutieusement préparé. Les policiers ont ainsi retrouvé 23 armes de calibre différent, dont des fusils d'assaut dans sa chambre, vraisemblablement transportés dans plus de 10 valises. C'est ce qu'affirme en tout cas le shérif de la ville, Éric Biegala. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors cette opération paraît avoir nécessité pratiquement autant de préparation qu'une entreprise terroriste professionnelle, si je puis dire.
Oui, alors elle a été préméditée, hein, ça fait évidemment aucun doute. Le tireur a choisi son poste de tir, la chambre 135 au 32e étage du Mandalay Bay. Elle est située dans l'aile du bâtiment la plus proche du Las Vegas Village où se déroulait le festival de country, en surplomb à environ 350 mètres de distance. C'est loin si on veut réaliser un tir de précision, mais très proche si l'on entend arroser une foule à l'arme automatique, et c'est manifestement ce qui s'est produit. Le tireur Stephen Paddock disposait d'armes automatiques, des armes de guerre, dont l'acquisition est réglementée aux États-Unis, mais qu'il est tout de même relativement facile d'obtenir si on en a les moyens. Un fusil d'assaut M16 ou M4 se vend par exemple aux alentours de 15 000 dollars, et visiblement Stephen Paddock avait les moyens. Quant à installer ce véritable arsenal dans une chambre d'hôtel, on a retrouvé, vous l'avez dit, 23 armes dans la chambre 135, rien de plus simple. Il lui a suffit de transporter tout ça dans une dizaine de valises. À vrai dire, personne ne trouvera étrange qu'un quidam se promène avec de grosses valises dans un hôtel. Si des fouilles peuvent être effectuées aux accès des casinos de Las Vegas, dans les hôtels de la capitale mondiale du jeu, comme ailleurs, les bagages des clients ne sont jamais vérifiés. Au total, l'opération a certes été préparée, mais c'est une préparation beaucoup plus simple à réaliser aux États-Unis qu'ailleurs.
Éric Biegala, merci. On revient dans un instant sur la revendication donc du groupe État islamique. Est-ce qu'il faut en penser? Mais d'abord, un mot sur le profil du tueur et ce que l'on en sait pour le moment. Marco Voltaire, vous êtes sur place.
C'est un ancien comptable à la retraite, un homme plutôt aisé qui vivait dans un complexe résidentiel pour seniors à Mesquite. C'est une petite ville à une bonne heure de route au nord de Las Vegas. Il n'avait pas d'enfant, il aurait fait fortune dans l'immobilier d'après les dires de son frère qui lui vit en Floride. Les deux étaient rarement en contact, mais son frère dit qu'il n'a pas vu de signe d'une quelconque radicalisation. Un homme que l'on dit sans histoire, mais un homme qui vient donc de perpétrer la pire tuerie de masse de l'histoire moderne des États-Unis. Et le motif, eh bien, reste totalement flou. Il n'y a pas de nouvelles informations questions quant à un éventuel lien avec le groupe de l'État islamique qui a revendiqué l'attaque. Cette piste, vous l'avez dit, est écartée toujours par le FBI. Donald Trump lui-même a refusé de parler de terrorisme. Pour l'instant, les regards se tournent aussi vers Tokyo, où se trouverait la petite amie de Stephen Paddock. Les deux habitaient a priori ensemble dans le Nevada. On ne sait pas si elle a été interrogée, mais peut-être qu'elle savait quelque chose. Le shérif lui a assuré une nouvelle fois que Stephen Paddock avait agi seul, en loup solitaire, que Las Vegas n'était actuellement plus menacé.
Oui, effectivement, le groupe État islamique qui, dans sa revendication, soutient que ce tireur s'était converti récemment à l'islam. La piste n'a donc pas été confirmée par le FBI, plutôt écartée, dit-on, à Washington. Il semble que lui, Eric Begala, soit peut-être moins regardant qu'avant, avant sa défaite sur le terrain en matière de revendication.
Oui, alors c'est l'agence AMAC qui a produit la revendication. AMAC, c'est une sorte d'agence de presse proche de l'État islamique, mais qui, stricto sensu, n'est pas le porte-voix officiel du groupe djihadiste. La revendication publiée par AMAC cite une source émanant des services de sécurité qui sont, dans l'organigramme du califat, la branche en charge des actions à l'étranger. Alors, en général, les revendications d'attaque publiées par AMAC sont suivies d'éléments permettant d'accréditer effectivement celles-ci, telles qu'une vidéo de l'attaquant. Pour le moment, rien de tel concernant Stephen Paddock. Mais il est arrivé que certaines revendications postées par AMAC, un assassinat en Turquie ou des tirs sur un casino aux Philippines au printemps dernier par exemple, ne soient pas suivies du moindre détail permettant d'accréditer la revendication djihadiste. Pour le moment, en tout cas, rien ne permet de dire que Stephen Paddock s'était converti, qu'il s'était radicalisé ou qu'il avait été le moins du monde en contact avec qui que ce soit proche de l'État islamique. Enfin, dernier détail qui ne colle pas vraiment avec le modus operandi des attaques djihadistes, le suicide du tireur. Si les attaquants de l'État islamique n'hésitent pas devant l'attentat suicide, ils ne se sont jamais suicidés indépendamment d'un combat. Et Stephen Paddock était déjà mort lorsque les policiers ont fait irruption dans sa chambre.
Merci beaucoup, Eric Biegala. En tout cas, le groupe État islamique a par ailleurs revendiqué dans un communiqué officiel l'attentat suicide perpétré hier contre un commissariat de police à Damas qui avait fait au moins 16 morts. Le gouvernement catalan va-t-il franchir l'étape suivante en proclamant l'indépendance? C'est en tout cas ce qu'il semblait envisager ces derniers jours après le vote. Mais il manifeste aussi vraisemblablement le souci d'entamer un dialogue après le choc de la répression d'hier ce matin. C'est toute la région qui était appelée à faire grève pour défendre ses droits, pour dénoncer bien sûr les violences policières. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Le mouvement donc apparaît assez bien suivi dans de très nombreux secteurs.
Oui, du port de Barcelone aux universités et écoles publiques, aux transports en commun, même les musées et la fameuse Sagrada Familia, la cathédrale de Gaudi, rien ne fonctionne aujourd'hui. La plupart des commerces, des restaurants et des cafés ont également baissé le rideau jusqu'au FC Barcelone, l'emblématique club de football, où ni les équipes professionnelles ni celles des jeunes ne s'entraîneront aujourd'hui. Les associations indépendantistes et les organisateurs syndicaux avaient promis une grande mobilisation et on peut dire ce midi que la promesse est tenue. Il y a eu ce matin plusieurs défilés dans le centre-ville, dont celui des pompiers de Barcelone, applaudis vivement sur leur passage pour leur attitude dimanche. Équipés de leurs casques d'intervention, ils avaient en effet prêté main forte à la population face aux charges de la police nationale. L'ambiance est beaucoup plus calme aujourd'hui. Il s'agit pour les organisateurs de faire une grande démonstration de paix et de soutenir le gouvernement catalan dans son bras de fer avec Madrid.
Quid maintenant, Annabelle, d'une déclaration d'indépendance, cette déclaration dont on parlait tant ces derniers jours ?
Eh bien, ils sont nombreux à la souhaiter, à l'attendre, à y croire. Mais la population ici, vous savez, est aussi très divisée. Ceux qui souhaitent que le dialogue reprenne restent tout de même majoritaires. De son côté, Carles Puigdemont, le président du gouvernement catalan, semble temporiser, gagner du temps. Déclarera-t-il demain, comme prévu, la déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne? Eh bien, c'est peu probable, selon les observateurs. Les résultats définitifs du référendum n'ont pas été encore transmis au Parlement régional, tandis que Carles Puigdemont demandait hier une médiation avec Madrid, supervisée par l'Union européenne.
Annabelle Grelier, donc en direct de Barcelone. Et pendant ce temps, à Madrid, eh bien, on se prépare à toutes les éventualités. Bonjour Mathieu de Taillac.
Bonjour Antoine.
En particulier à cette déclaration, la réponse et à la réponse qu'il conviendra de lui donner.
Oui, effectivement, à Madrid, on essaie d'envisager tous les scénarios et la déclaration d'indépendance en fait partie. Personne ne sait effectivement si elle aura lieu et quand est-ce qu'elle pourrait se produire. Certains tablent sur le 6 octobre, ça veut dire vendredi prochain. Le 6 octobre, pourquoi ? Parce que c'est une date symbolique, anniversaire. Le 6 octobre 1934, déjà, un président régional catalan, Luis Companys, avait proclamé un État catalan, mais à l'époque, à l'intérieur d'une République fédérale d'Espagne. Alors, en tout cas, en cas de déclaration, que pourrait faire le gouvernement espagnol ? Certains le poussent à mettre en œuvre l'article 155 de la Constitution, qui est prévu en cas de rébellion d'une région, mais qui n'a jamais été utilisé. Dans ce cas, Madrid peut, après un vote du Sénat, exercer directement certaines prérogatives dont habituellement est responsable la région, prendre le contrôle de la police régionale, par exemple, voire remplacer certains membres du gouvernement catalan. Certains souhaitent que l'article 155 soit utilisé pour une chose précise, convoquer des élections régionales anticipées en Catalogne. C'est évidemment une option risquée. Après les charges policières violentes de dimanche, rien ne dit que les séparatistes perdraient leur majorité. Bon, c'est au moins une solution qui permettrait de changer l'un des deux visages qui incarne le choc Madrid-Barcelone. Le président catalan actuel, Carles Puigdemont, a indiqué qu'il ne se représenterait pas en cas d'élection. À Madrid aussi, certaines voix critiques disent, en public ou en privé, qu'ils aimeraient bien voir Mariano Rajoy partir. Lui, en tout cas, ne donne aucun signe de vouloir céder sa place.
Merci Mathieu Le Taillac en direct de Madrid. On salue l'invité de la séquence interview, le député Hugo Bernalici, député France Insoumise du Nord. Bon, France Insoumise soutient les Catalans, je crois, dans leur lutte, en tout cas condamne évidemment la répression, même si ce séparatisme est en partie lié au fait que les Catalans ne veulent pas forcément payer pour les régions les moins favorisées, et même si votre parti non plus ne souhaite pas évidemment que la France suive un modèle comme ça régionaliste. Alors ça complique un peu votre équation. Est-ce que c'est clair dans votre esprit, votre position sur ce conflit, cette opposition actuelle entre Barcelone et Madrid ?
Oui, pour moi c'est clair dans mon esprit, clairement, effectivement. On ne soutient pas une forme de séparatisme, d'indépendantisme, mais ce qu'on est sûr de soutenir, c'est que il faut jamais renoncer à convaincre, et que là, on a renoncé à convaincre et on a utilisé la contrainte par la police. Et quand on met en avant, nous, systématiquement, dans tout conflit, qu'il faut que ça se résolve par les urnes, là, c'est le cas contraire quand même. Ces images de policiers qui viennent empêcher les gens de voter, mais c'est une symbolique violente à la fois physique, mais violente aussi sur le plan politique. Voilà, moi je trouve ça assez extraordinaire. Après, de là à dire que c'est juste une demande d'indépendance parce que c'est une région riche, etc. Je crois savoir qu'il y a quand même chez les indépendantistes catalans une part de progressistes non négligeables qui ne veulent pas sortir pour ces raisons-là, mais pour des raisons redistributives. Redistribution qui n'a pas lieu aujourd'hui en Espagne. Et donc, M. Rajoy, il a précipité ce vote parce que aussi sa politique est antisociale en Espagne. S'il avait renforcé la République dans sa capacité à faire de la cohésion sociale, il n'en serait pas arrivé là et il aurait tous les arguments pour convaincre qu'il faut rester unis dans ce pays. Donc c'est un enchaînement de facteurs qui arrive à ce scénario catastrophe. Et moi, je pense que c'est un problème que le gouvernement français, que le gouvernement allemand ne soit pas plus dur vis-à-vis de M. Rajoy. Enfin voilà, on a vu des mots très durs sur ces gens-là de la part de ces gens-là.
Des autonomies dans les régions.
Oui, bon, d'accord.
On va reparler de la France dans un tout petit instant. Je vous demande pardon, Hugo Bernalici, parce qu'on doit évoquer d'abord une autre crise institutionnelle, celle qui déchire actuellement le Cameroun anglophone. Mmh. Et c'est une crise qui vient de connaître un épisode très sanglant. Dimanche, il y a eu au moins 17 morts en marge d'une proclamation symbolique d'indépendance, donc du Cameroun anglophone vis-à-vis des francophones. C'est un bilan qui a été établi par Amnesty International. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour.
Dimanche dernier, donc, déclaration symbolique d'indépendance de ces régions anglophones, proclamée sur les réseaux sociaux, avec un président autoproclamé lui aussi, qui dit que ce nouvel État s'appelle l'Ambazonie. Il faut que vous nous précisiez peut-être d'abord le contexte.
Oui, la contestation a commencé en 2016 avec la colère d'enseignants contre la nomination de professeurs francophones dans les zones anglophones et la colère de juristes contre l'abandon du droit anglo-saxon. Puis le mouvement a pris une tournure plus politique après la coupure d'Internet pendant 3 mois au printemps dernier et l'emprisonnement d'activistes pro-indépendance, même si certains d'entre eux ont été libérés depuis. Ces deux régions ont proclamé, vous le disiez, via les réseaux sociaux et symboliquement leur indépendance dimanche, jour anniversaire de la réunification, justement, du Cameroun le 1er octobre 1961. Et depuis 48 heures, les forces de sécurité ont été déployés à Bua, chef-lieu de cette région. Interdiction a été faite aux manifestants de sortir dans les rues. Un porte-parole du gouvernement a également demandé aux médias de ne pas donner la parole aux contestataires, des contestataires qui dénoncent la répression des autorités. Certains demandent même que le président Paul Biya soit traduit par la justice internationale. Ancienne colonie allemande, le Cameroun a, lors de la défaite allemande de 1918, été confié par la Société des Nations à la France pour les 4/5 du territoire. La partie restante, 2 régions sur 10, ce qui représente aujourd'hui 20% de la population, passant sous tutelle britannique. Puis, à l'heure des indépendances en Afrique, au début des années 60, ces deux entités ont d'abord fait partie d'une république fédérale, avant que cette république du Cameroun devienne, en 1972, un seul État doté d'une seule assemblée.
Nabila Hamel.
Midi 45 sur France Culture, la suite de votre journal. Antoine Mercier, les suspects sont connus pour leur radicalisation, mais leur cible interroge.
Oui, il y a 5 personnes qui ont été interpellées par les services antiterroristes en région parisienne ce matin après la découverte, c'était vendredi soir dernier, dans la nuit de vendredi à samedi, de bonbonnes de gaz équipées d'un dispositif de mise à feu, et cela devant un immeuble et à l'intérieur d'un immeuble du 16e arrondissement de Paris. Les bonbonnes, l'essence, le dispositif de mise à feu, ça montre quelque chose de sophistiqué, affirment les enquêteurs, mais en revanche, cette cible, cet immeuble du 16e reste toutefois une énigme pour les enquêteurs. Emmanuel Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez pu synthétiser pour nous les informations dont on dispose ce matin.
Oui, les enquêteurs sont toujours sur la piste d'un projet d'attentat djihadiste étiqueté Daesh et pas une vengeance, une piste criminelle. Comme on a pu le voir hier à Mulhouse, on sait que les suspects arrêtés sont en lien avec la mouvance islamiste radicale, que le principal suspect était fiché depuis un peu plus d'un an au FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. On sait que l'homme avait été récemment surveillé parce qu'il faisait de la propagande, mais rien de plus en apparence. La section antiterroriste de la police judiciaire parisienne et la DGSI cherchent donc à savoir pourquoi et comment des traces ADN et digitales de cet homme ont été relevées sur les bouteilles de gaz retrouvées le week-end dernier. Est-ce qu'il est directement mêlé à cette affaire? Est-ce qu'il en est le cerveau? D'où l'arrestation de certains de ses proches, des membres de sa famille et des amis, uniquement des hommes autour de la trentaine. On sait que plusieurs perquisitions ont également eu lieu hier et cette nuit, mais pour l'instant, le parquet antiterroriste ne souhaite pas évoquer ce qui a été découvert pour ne pas gêner les enquêteurs. Par contre, de sources proches du dossier, on cherche encore à déterminer pourquoi cet immeuble cossu du 16e arrondissement de la capitale, effectivement près de la porte d'Auteuil. Tous les résidents ont été interrogés. Il y a bien un homonyme d'un militant connu pour ses positions anti-Daesh, mais ce n'est qu'une hypothèse à ce stade. Ce qui est certain ce matin, c'est que si cette bombe avait explosé, elle aurait pu faire de gros dégâts, mais le système de mise à feu avec ce téléphone pour déclencher d'abord un incendie avec de l'essence, puis éventuellement faire exploser les bonbonnes, eh bien tout cela a laissé les démineurs perplexes. C'est très compliqué en réalité, assez amateur, et ça avait peu de risque d'aboutir en fait à une explosion.
Emmanuel Leclerc, merci beaucoup. On passe sans transition au procès du frère de Mohamed Merah, auteur des tueries de Toulouse et de Montauban en mars 2012. C'est le deuxième jour donc ce matin, avec le début de l'exposition de la personnalité du prévenu accusé de complicité. On retrouve Florence Turm sur place. Bonjour.
Bonjour, oui, dans le quartier on m'appelait Ben Ben, et ça correspond à quoi, interroge le président. À Ben Laden, réponse sans détour Abdelkader Merah. Cela remonte aux attentats du 11 septembre. Toute la journée, il avait crié « Vive Ben Laden » dans la cité. Mais à l'époque, précise-t-il, j'étais un voyou, je ne connaissais pas l'idéologie. Debout, dans le box des accusés, les mains derrière le dos, un peu bedonnant, chemise claire, longue barbe noire, l'accusé ne se trouble jamais. D'une voix posée, à l'accent toulousain, il livre le récit d'une vie familiale parfaite, en tout cas jusqu'au divorce de ses parents. Une mère parfaite, elle aussi, qu'il dit adorée, mais frappe pourtant régulièrement elle et ses sœurs. Il dément, mais les rapports de l'aide sociale à l'enfance sont formels, un garçon rebelle, à l'autorité, hyperactive, inquiétante, asociale, toujours à l'affût d'un mauvais coup. Abdelkader Merah ne bronche pas, lui attribue son glissement dans la délinquance à son aîné Abdel Ghani, aujourd'hui en rupture avec le reste de la famille. À 11 ans, j'ai commencé à boire de l'alcool avec lui, je fumais du shit, je volais avec lui. Dans la cité des Isards, on le surnomme également Jack, parce qu'il consommait beaucoup de whisky Jack Daniels. Mais aujourd'hui, Abdelkader Merah balaie son passé de petit délinquant avec sa conversion à l'islam, l'islam qui permet alors homme, monsieur le président, d'acquérir une forme de sagesse. Au retour de ses voyages en Égypte, il s'installe à la campagne pour échapper aux turpitudes de la ville, se marie religieusement par téléphone avec une fille de son quartier. Donc juridiquement, vous n'êtes pas marié, insiste le président. Je suis musulman, le mariage religieux me suffit, réplique l'accusé sans hausser le ton. C'est ma femme au regard du Créateur.
Merci beaucoup Florence Turm. On retourne vers Hugo Bernalici, notre invité, député France Insoumise du Nord. L'Assemblée vient de voter ce projet de loi antiterroriste que Manuel Valls qualifiait ce matin d'équilibré et il critiquait aussi l'ancien Premier ministre, le discours qu'il appelait islamo-gauchiste des Insoumis. Donc évidemment, vous vous sentez sans doute visé, Hugo Bernalici, sur votre supposée complaisance parfois, selon certaines déclarations, vis-à-vis du phénomène islamiste.
Je me sens pas du tout visé parce que pour ça il faudrait que je sois et islamiste et gauchiste et je ne suis ni l'un ni l'autre, donc la caractérisation qui nous est faite passe un peu à côté. D'ailleurs, je ne dis pas de Manuel Valls qu'il serait pagano-fasciste ou judéo-fasciste au regard de ses amitiés avec quelques responsables de l'extrême droite au sein du gouvernement israélien. Je ne vais pas jusque là, donc je demande à Monsieur Valls de raison garder et de garder plutôt ses munitions, ses attaques contre
Est-ce
l'extrême droite.
Vous faites allusion à quelle relation entre Monsieur Valls et le gouvernement israélien ?
Eh ben, c'est quand il y a eu un certain nombre de visites au sein d'Israël où il a montré une certaine complaisance avec ce gouvernement et on sait qu'il est mis à l'amende par l'ONU quand même pour ses exactions sur les territoires palestiniens. Mais je referme tout de suite cette parenthèse parce que Monsieur Valls, il pourrait garder justement ses attaques contre le Front National dans l'hémicycle. Mais non, il se fait plutôt applaudir par l'extrême droite qui utilise finalement la même rhétorique. Moi, je trouve que M. Valls est tombé bien bas pour un ancien Premier ministre et que ce n'est pas du tout à son honneur.
Alors, on passe à la dossier social, puisque M. Macron réinvestit ce terrain, qu'il retourne ce matin à Amiens voir les salariés de Whirlpool, qu'il inaugure tout à l'heure un nouveau site du groupe Amazon, avant une visite demain en Corrèze consacrée à la formation. Frédéric Seyss, bonjour.
Bonjour.
Le chef de l'État se lance donc dans un rééquilibrage, dit-on, de sa communication, peut-être même de sa politique. Il tente en tout cas de convaincre qu'il n'est décidément pas le président des riches seulement.
Et cette visite répond à trois choses. D'abord, c'était une promesse de campagne. Emmanuel Macron s'était engagé à revenir sur le site lors de sa visite mouvementée dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Ensuite, c'est tout de même une forme de succès économique, en tout cas pour l'instant. Un repreneur a été trouvé et il conserve 277 postes sur les 300 que comptait l'usine Whirlpool, même si la question des nombreux intérimaires qui travaillaient là est-elle beaucoup moins claire. Et puis, il y a effectivement la volonté de démontrer l'attention à la France qui travaille, comme l'appelle le ministre Gérald Darmanin. En déplacement en Estonie, le chef de l'État avait déjà volontiers insisté sur le volet « social » entre guillemets du budget 2018, baisse de la taxe d'habitation, suppression en deux temps des cotisations salariales, augmentation du minimum vieillesse et de l'allocation adulte handicapé, dans l'espoir de contrebalancer précisément le discours de l'opposition ou des oppositions sur un budget favorable aux ménages les plus aisés. Mais en fait, dans cette visite, ce n'est pas tant Whirlpool ce matin que l'Élysée tente de mettre en lumière, c'est Amazon à Beauvais, à quelques kilomètres cet après-midi. L'entreprise américaine ouvre une plateforme sur place, un centre logistique qui promet d'employer à terme 500 personnes en CDI. Le chef de l'État abordera également la taxation des géants du net, les CAFA, comme on les appelle, dont Amazon fait partie. Pour le coup, Emmanuel Macron a prévu d'y passer du temps. Inauguration des locaux, rencontre avec les personnels, table ronde ouverte aux journalistes. Il s'agit d'illustrer le principe de destruction créatrice qu'on doit à l'économiste Schumpeter. Des emplois sont détruits, certes, mais d'autres se créent. L'idée est donc bien de mettre en lumière les seconds plutôt que les premiers.
Frédéric Seyss, merci. On demandera à notre invité s'il est schumpeterien. Sophie Delbon.
Bonjour, Hugo Bernalici. Vous dites donc par rapport au projet de loi pour prolonger la protection hors de l'état d'urgence dans le droit commun que c'est un projet qui nous inscrit dans une démocrature, c'est-à-dire, et qu'est-ce qu'il faut faire pour nous protéger sans tomber dans ce travers-là ?
Oui, j'ai parlé de démocrature parce que on est en train de remettre en cause la nature de notre régime. Ce qui fait la caractéristique de notre régime démocratique et républicain, c'est précisément la séparation des pouvoirs et l'indépendance notamment de la justice et sa capacité à mener des enquêtes sous la responsabilité d'un magistrat indépendant avec des officiers de police judiciaire, etc. Ce qu'on est en train de faire là, c'est de transcrire des moyens d'exception qui sont déjà, pour lesquels on est déjà pointé du doigt du point de vue des droits de l'homme, puisqu'on est sorti de la Convention européenne des droits de l'homme pour l'appliquer, au même titre que la Turquie, au même titre que l'Ukraine, je tiens à le signaler. et que on va transcrire ça dans le droit commun avec toujours cette initiative à l'autorité administrative, à l'exécutif, c'est-à-dire en fait à la police, au préfet et au ministre de l'Intérieur, avec un niveau de preuve qui est très faible, pour ne pas dire inexistant, puisque le principe, c'est de pouvoir agir quand on n'a pas de preuves et que des soupçons. Et là, je dis, c'est très grave. Il n'y a pas que moi qui dis que c'est très grave. Il y a le défenseur des droits, M. Toubon, et il y a les deux rapporteurs de l'ONU, rapporteurs spéciaux de l'ONU, sur la question des droits de l'homme, qui mettent à l'amende la France, encore une fois, sur les dérives potentielles que peuvent avoir ces mesures. Donc oui, démocrature, parce que je ne vais pas dire dictature, ce serait, je pense, un peu trop, mais dire qu'on est encore dans une démocratie avec ce genre de mesures, ça me paraît aussi un peu trop faible. Donc on est dans cet entre-deux qui, moi, m'inquiète.
Voilà, et on est presque à la fin du journal. Donc, question très courte, Sophie Delpont, réponse courte également, merci.
Et donc, selon vous, comment faire pour nous protéger ?
Renforcer le droit commun, renforcer les moyens de l'état de droit qu'on a. C'est-à-dire, on a proposé augmenter les moyens de la justice. Il n'y a que 12 juges antiterroristes en France. 12 pour un pays aussi grand comme la France. Est-ce que c'est suffisant ? Non, je ne le crois pas. Renforcer le nombre d'officiers de police judiciaire, renforcer le nombre des moyens de la justice également, le nombre de douaniers, qui est un grand absent de ce débat. Et puis, tous les amendements qui se sont fait rejeter. Enfin, on a fait un amendement pour pénaliser Lafarge. Il n'y a plus personne quand il s'agit de ça. C'est un problème. On a fait des amendements pour lutter contre les financements, notamment Qatar et Arabie Saoudite. Nous mettons le doigt là où ça fait mal. Il n'y a personne pour voter avec nous. Voilà, voilà les moyens qu'on aurait pu mettre en œuvre et qui, malheureusement, ne sont pas mis sur la table.
Et vous vous sentez bien à l'Assemblée, dans le nouveau groupe Insoumis ?
Ah oui, parfaitement bien.
Merci beaucoup, Hugo Bernalicis, d'avoir accepté l'invitation de France Culture. Un temps Mossad sur le pays, sur tout le pays, des températures de 16 à 26 degrés. Réalisation de cette édition par Yacine Bouzard. Le prochain journal sera édité par Véronique Reverotte à 18h.